Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneurs et de cyclosportifs. Bonne écoute.
Et bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast RCS. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme toujours, j'ai toujours du plaisir à animer ce podcast et de recevoir Thomas Champion, coureur cycliste professionnel pour l'équipe Cofidis. Alors déjà, merci beaucoup Thomas d'être présent avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ?
Ouais, mais merci à toi Loïc, et merci pour l'invitation et ce nouvel épisode du podcast RCS. Alors moi je suis Thomas Champion, j'ai 24 ans, ça fait maintenant 4 ans que je suis cycliste professionnel au sein de l'équipe Cofidis. Et aujourd'hui, je suis venu pour parler de mon métier passion avec vous.
Voilà. Alors, c'est vrai que on s'est rencontrés il y a quelques années. On avait bu un café ensemble sur les bords du lac Léman dans un café cycliste lequel j'avais cofondé qui s'appelle Tête de course. Et je me souviens, je crois que tu partais pour faire un petit voyage avec ta copine où tu revenais en Suisse alémanique, je crois. Et c'est vrai qu'on avait échangé et puis j'avais vraiment découvert un gars très 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 sympa, très très simple et voilà, ça me fait très plaisir qu'on puisse discuter un petit peu aujourd'hui de ton parcours. Donc est-ce que voilà, toi tu viens à la base du VTT, t'es né en Loire-Atlantique. Explique-nous un petit peu comment s'est faite déjà la transition entre déjà ton évolution dans le vélo, tes débuts, et puis après l'évolution entre le VTT et la route.
Ouais, c'est sûr, j'ai un parcours pas totalement routier, on va dire. J'ai été un petit peu un petit couteau suisse du vélo. J'ai touché un peu à tout. Donc j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans. Vraiment dans les toutes premières catégories du vélo et la compétition la même année d'ailleurs. Donc j'ai commencé par le VTT dans un club de par chez moi aux environs de Nantes et voilà, d'année en année j'ai de plus en plus adhéré à la compétition avant de me pencher un peu plus sur la route en intégrant un premier pôle espoir cyclisme qui s'appelait le CREF, qui était le centre régional d'entraînement et de formation des Pays de la Loire, avec un projet dans ma tête 100% VTT au début, et après ils ont réussi à me passer petit à petit sur la route en me faisant découvrir de très belles épreuves juniors internationales. Et puis, c'est vrai que dès mes premières courses, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai été repéré assez vite. Et en fait, j'ai accédé à l'ADN1, donc le premier niveau amateur, dès ma première année espoir, avec le Vendée-U. Donc le Vendée-U qui est la réserve officielle, on va dire, du team Total Energy chez les professionnels. Et puis voilà, ça s'en est suivi une ascension. J'ai dû changer de DN1 pour rejoindre le Rhône-Alpes et un profil qui me convenait mieux, pour ensuite signer professionnel en 2021.
Ouais, du coup, ça, le changement, donc tu étais à Bourg-en-Bresse, un cyclisme. Donc ça s'est fait aussi par un choix par rapport à ton profil, à tes qualités physiques qui étaient plus... Enfin, t'es plus prédisposé, on va dire, pour la montagne que faire un peu toutes les courses un peu plus punchy ou plates de l'ouest et du nord.
Ouais, clairement, j'étais un profil grand, sec, comme je le suis toujours, plutôt léger. Et c'est vrai que quand t'es né en Loire-Atlantique, clairement, la montagne et les bosses, c'est pas ce qui se fait de plus courant. Donc ouais, j'ai appris le vélo dans ces conditions-là, forcément, j'avais pas le choix, c'était là où j'habitais. Donc j'ai appris d'abord à rouler sur le plat, j'ai appris d'abord à lancer des bordures avant de savoir monter des cols, quoi. Donc ça m'a fait quand même un parcours plutôt complet dans le sens où j'ai touché un peu à tout. Mais je me suis très vite aperçu que dans les courses les plus difficiles, au niveau du relief bien sûr, que j'étais un peu plus à l'aise. Ouais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il me fallait une équipe qui me propose un meilleur calendrier où je puisse le plus me faire voir, quoi.
Ouais. Est-ce que tu penses que finalement aujourd'hui c'est un atout d'être passé par aussi ces courses-là? Voilà, si tu as fait au Vendée, on sait qu'il y a une grosse ADN aussi pour les classiques, pour les courses qui se déroulent dans le vent, voilà, tout ce qui est gérer les bordures, etc. Est-ce que aujourd'hui, toi, en tant que grimpeur, est-ce que finalement d'avoir développé et évolué dans ce cadre-là aussi, tu sens un petit plus des fois par rapport à peut-être des grimpeurs qui ont ton profil mais qui ont évolué que en région Rhône-Alpes pour sur des courses difficiles? Ou pas forcément?
Oui, c'est sûr. C'est sûr, je pense que ça plutôt. Que, comme je disais, ça m'a fait un profil plutôt complet. Dans le sens où Vendée-U, bah, déjà, m'a appris le vélo sur route. Totalement, parce que quand on vient du VTT, on n'a pas. D'une, on ne fait pas les kilomètres. On a peut-être 25-30 jours de course par an. On n'a pas le fond, entre guillemets. Pas l'aspect foncier du vélo. Et c'est vrai qu'en 1 ou 2 ans, je suis passé de, je sais pas, mes 12 000 km à l'année à mes 23, 24 000 km en espoir 1, espoir 2, avec 70-80 jours de course, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a fait passer un gros cap d'un coup, et ils m'ont appris le vélo. Ouais. Donc après, forcément, il y a l'aspect du placement en course qui a été très important chez Vendée-U, car il court vraiment collectif, et il y a souvent des stratégies de course qu'il n'y a pas forcément dans d'autres équipes amateurs. Ils sont plutôt très professionnels. Enfin, je pense que c'est l'une des équipes amateurs les plus professionnelles, les plus cadrées. Et donc avec eux, ouais, j'ai appris à manger du vent, à avoir une stratégie de course, à rouler devant le peloton, à aller chercher des bidons, à avoir un leader aussi, tout simplement, à savoir bosser pour un mec, savoir bosser pour un leader. Et ouais, ils m'ont appris le vélo, et je pense qu'aujourd'hui ça me sert.
Ok, top. Et tu avais quel âge quand t'as fait du coup le changement pour la BAC?
Alors, je passais Espoir 3, donc
Ok.
c'est quoi? C'est 20 ans à peine. Enfin,
20 ans.
j'étais dans l'année de mes 20 ans. Dans l'année de mes 20
Ok.
ans, ouais. Et puis, je suis passé professionnel directement après, donc à 21 ans.
Ah oui, du coup, t'as fait qu'une année à la BAC.
Ouais, j'ai fait qu'une année, et c'était l'année Covid, donc on va dire une demi-année.
Ok, du coup sur cette année-là, tu avais déjà des contacts avec l'équipe en amont, ou c'est vraiment sur cette année-là que tu as réussi par tes résultats à te faire voir?
Non, vraiment que sur cette année-là. Que sur cette année-là. Et c'est vrai que c'était pas facile dans le sens où sur 3 mois de saison, on va dire 3 mois officiels de saison, d'août à octobre, on n'est que trois cette année-là en France à passer pro, je crois. Donc il fallait pas vraiment se louper, quoi. Il n'y avait pas de course où on se disait bon, on y va pour la prépa, et il fallait scorer tout de suite dès les premières. Et puis après, chez Cofidis, ils recherchaient un profil montagne, tout simplement, parce qu'il manquait un petit peu de main-d'œuvre en montagne pour leurs leaders comme Guillaume Martin ou Yann Izaguirre. Et du coup, voilà, c'est bien tombé. J'ai performé dès mes premières courses en montagne, et j'ai pu avoir le contact assez rapidement.
Donc ça, c'était 2000, donc 2020, quand tu étais à la BAC
2020.
avant de faire la transition. Et là, tu faisais encore un petit peu de VTT. J'ai vu en préparant le podcast que tu avais fait troisième du championnat de France, je
Du
crois, de
France.
marathon.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que mes 2 années espoir, avant Vendée-U, j'ai continué à faire du VTT. Je faisais encore les Coupes de France. Coupe de France, Championnat de France. J'ai dû faire peut-être une ou deux manches de Coupe du Monde à Val-Nord, en Andorre. Et puis j'ai fait Nové Mesto. en République tchèque. Et donc voilà, j'ai continué. Et puis l'année Covid, bon, elle a été très très découpée. J'avais pas un choix de programme hyper élargi, sachant qu'en 3 mois de course, il y avait beaucoup de routes. Et puis c'était ma priorité, c'était devenu ma priorité. Et j'ai réussi à caler peut-être 2 ou 3 courses dans l'été, dont le championnat de France marathon, qui m'a permis de monter sur le podium français. Donc j'étais plutôt satisfait, ouais. Après, je savais que c'était mes derniers instants en VTT, donc j'en ai vraiment profité.
Ouais, ça après du coup, bon voilà, t'as totalement basculé sur la route. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui te manque un petit peu ou pas du tout?
Ouais, non, ça me donne envie, ça me donne toujours envie parce que j'aime vraiment le VTT, c'est une autre discipline et c'est un petit peu sous-coté, je pense, par rapport à la route, dans le sens où c'est une discipline vraiment noble où il y a cette ambiance différente de la route, ses parcours, c'est des endroits plus inaccessibles qu'en vélo de route, c'est des courses en pure montagne, des parcours vallonnés. Après, aujourd'hui, si je devais reprendre le VTT, je me tournerais vraiment que sur le profil VTT marathon, donc longue distance. Et du coup, par étape, parce qu'il y a beaucoup de courses VTT marathon qui se font par étape, et c'est un profil qui me va beaucoup mieux. Donc,
Bon,
pour,
ça donne
pourquoi pas en
des.
refaire, pourquoi pas en refaire si j'avais le choix, oui.
Ouais, peut-être pour après l'après-carrière.
Ouais, c'est ça, c'est l'après-carrière, c'est sûr.
Ok. Alors, du coup, bah voilà, tu passes professionnel en 2021. Donc là, bah tout de suite après 2021-2022, tu découvres un peu les plus grandes courses au monde. Je crois, du coup, en 2022, tu participes déjà à ton premier grand tour avec la Vuelta. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, est-ce que toi déjà dans ton parcours, notamment de cycliste, t'as vraiment, enfin, on en reparlera un petit peu après. C'était aussi l'objectif du podcast et porté aussi très, voilà, découverte, voilà, te faire plaisir aussi par les yeux. Mais est-ce que déjà quand t'as commencé le vélo, t'avais tout de suite l'envie de l'objectif de passer professionnel? Est-ce que c'était vraiment une fin en soi ou pas forcément? Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être en immersion et acteur de ces courses qui j'imagine, t'ont fait rêver.
Alors non, moi quand j'ai commencé le vélo, déjà je pense que je savais même pas que ça existait le monde professionnel. Enfin voilà, dans mes jeunes catégories, j'avais pas conscience de ça. Simplement parce que je viens pas du tout d'une famille de cyclistes. J'avais aucun lien avec le vélo avant d'en faire moi-même. Et en venant du VTT, encore moins, dans le sens où le VTT professionnel c'est plutôt réduit. Il y a, je sais pas, en France, il y a peut-être 5-6 mecs qui en vivent réellement, enfin qui en vivent décemment. Et non, je n'avais pas cette vision à long terme du vélo. Pour moi, c'était du plaisir, c'était retrouver les copains le dimanche, c'était s'amuser sur le vélo et par la suite, forcément, performer sur mes courses nationales. Et après, ouais, en rentrant, on va dire, c'est en rentrant au Pôle Espoir, peut-être à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, je me suis aperçu quand même que il y avait des mecs qui pouvaient en faire leur métier et que ça devenait quand même plutôt stylé. Et donc, ça m'a donné envie d'y aller. Et ouais, une fois que j'y étais, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à réaliser, je pense, que j'avais réussi à atteindre ce métier. Ce qui n'est pas une fin en soi, parce que bon, le but c'est de faire aussi carrière et signer c'est une chose et prolonger c'en est une autre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit bon, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire dans ce métier, et c'est-à-dire découvrir les plus belles courses du calendrier. Ouais, jusqu'à présent, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu faire. Sur ma petite liste dans ma tête, il reste peu de compétitions auxquelles j'ai réellement envie de participer. Donc je suis déjà plutôt satisfait en 4 ans d'avoir pu accéder à toutes ces courses.
Ouais. Pour le moment, on te voit souvent dans un rôle d'équipier, comme tu disais aussi, notamment en montagne, en support de tes leaders. Est-ce que déjà, on va dire, tu te dis dans ta tête que toute ta carrière, ça sera comme ça, tu prends du plaisir à faire ça, ou alors tu rêves encore de gravir un petit peu des échelons et pourquoi pas toi être un leader?
Ouais, alors c'est sûr que j'ai eu une des premières années assez compliquées entre guillemets niveau résultat pur. Maintenant, en tant qu'équipier, je me plais vraiment dans ce que je fais et j'aime apporter ma pierre à l'édifice sur une victoire collective. Voilà. Après, il faut pour que ça fonctionne, il faut que l'équipe soit consciente du travail qui a été effectué. Il faut que le rôle d'équipier soit considéré comme un vrai rôle entre guillemets un enfin comment dire
Ouais, qu'il soit
un rôle
valorisé,
un rôle
quoi.
vraiment important. Ouais, c'est ça. Un rôle valorisé et important parce que dans tous les cas des vainqueurs sur la ligne, il n'y en a qu'un. J'ai peut-être pas la confiance en moi pour me dire tout simplement je suis le plus fort aujourd'hui de l'équipe, roulez pour moi. Pour moi, j'ai pas encore ce truc-là, peut-être pas cette confiance et peut-être pas les capacités aussi, tout simplement. C'est-à-dire que sur tous les cyclistes, il y a déjà pas grand monde qui peut espérer passer professionnel. Et après, une fois que tu es professionnel, se dire je vais gagner les plus belles courses du monde, machin, c'est encore un autre cap, quoi.
Ouais.
Donc, je me plais vraiment bien dans ce que je fais. Je me plais vraiment bien dans ce que je fais. C'est sûr, les résultats sont pas flambants, mais je vois réellement, moi, en termes de valeur, en termes de performance, que d'année en année, je progresse. C'est un truc de fou. En 4 ans chez les pros, je suis plus du tout le même coureur. Et je commence à avoir quand même une place plutôt importante dans le peloton et chez Cofidis pour aider mes leaders. Donc je m'y
Ouais.
plais bien. Et écoute, pour l'instant, mon importance, c'est de faire carrière, c'est de donner le maximum. Et après, si un jour ça vient, je pense que ça viendra automatiquement, hein. Il suffit de saisir une opportunité un jour, que ça score et que l'équipe s'aperçoive réellement du potentiel, du niveau, et ça peut aussi changer une carrière. Voilà.
Ouais. Parce que c'est vrai, peut-être qu'on peut le préciser un peu aussi pour ceux qui connaissent pas forcément comment ça marche dans le milieu, mais bah, les équipes, notamment pour les transferts, s'intéressent beaucoup, bah, forcément en priorité aux coureurs qui font des résultats, qui ramènent des points aussi UCI à l'équipe. Mais c'est vrai que pour tout, bah, voilà, pour tous les coéquipiers qui ont aussi eux un très gros niveau, mais qui font du travail où forcément il n'y a pas d'attribution de points ou de places, c'est vrai que la reconnaissance de l'équipe, la valorisation. Aussi, je pense la valorisation dans les transferts, qu'une équipe dise ah, mais voilà, là il y a un coureur qui on peut pas forcément le garder ou qui aimerait changer, mais c'est vraiment un gars qui fait du super boulot, même s'il n'est pas forcément dans le top 5 ou top 10 des courses majeures. Mais ça reste un point important, quoi.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On est 30 dans une équipe. Il n'y aura jamais 30 mecs qui vont gagner des courses à l'année. Et dans tous les cas, notre boulot est important. Si on veut que nos coureurs phares réussissent à la fin de la course, il y a tout un processus. On est 7 par course ou 8 sur les grands tours. Et dans tous les cas, il y a du travail en amont qui doit être fait. Et il faut préserver notre leader au plus possible. Donc, je pense que nos rôles sont très importants. Et que oui, c'est sûr qu'en grande majorité, le grand public ne nous connaît pas ou moins. Et c'est vrai qu'on est là quand même. Et généralement, en plus, sur des courses, quand tu fais le travail, tu as quand même plus de watts moyens en règle générale que ton leader même. Donc,
Ouais.
ça démontre que quand même, il y a un petit moteur caché quelque part, mais qui a peut-être pas la pointe de vitesse pour finir ou cette montée finale qui va faire que tu vas te différencier des autres. Voilà, mais c'est un autre travail, on va dire.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça ne demande pas forcément les mêmes,
Les mêmes
tout à fait les
qualités, c'est
mêmes
sûr.
aptitudes. Ouais. Et bon, alors toi, même si tu n'es pas forcément là dans les finishes des cols à batailler avec les grands leaders mondiaux, mais on a quand même la possibilité de te voir souvent à l'avant, notamment cette année, enfin l'année dernière au Giro, où tu étais très combatif et souvent à l'avant. D'ailleurs, tu as été récompensé pour ça avec le prix de la Fuga, pour qui récompense ce coureur qui a passé le plus de temps de kilomètres à l'avant. C'est pour toi aussi voilà, de te lancer aussi dans les échappées à l'avant, le moyen de, j'imagine, de profiter de cette expérience et de ces moments en tant que cycliste professionnel, de prendre, je pense, aussi l'énergie du public plutôt que de rester dans le peloton.
Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment mon tempérament d'être attentiste et de servir à rien, entre guillemets. J'aime bien être acteur, et dès que j'en ai la possibilité et que le briefing le permet, j'essaye de me glisser dans les échappées. Ça peut servir en tant que stratégie, tout simplement pour ne pas que l'équipe ait la course à prendre en main. Ça peut aider notre leader par la suite s'il y a plusieurs enchaînements de cols et qu'il a besoin de quelqu'un qui soit déjà en avant-course. Et après, sur le cas du Giro l'année dernière, on n'avait pas de l'équipe Cofidis avait décidé de ne pas mettre de leader pour un classement général ou autre, et ils avaient laissé la chance aux jeunes, entre guillemets, de découvrir un nouveau grand tour. Alors pour ma part, c'était le deuxième, mais on avait peut-être trois mecs dont c'était le premier grand tour. Donc c'était voilà, c'était une occasion de découvrir. Et puis ouais, cette expérience est partie de la première étape où il y avait de base les points de la montagne à aller chercher. Donc je me suis dit, oh, un maillot à pois sur. Enfin, c'est pas un maillot à pois, c'est un maillot bleu sur le Giro, mais c'est l'équivalent du maillot à pois sur le Tour de France. Je me suis dit, ben, dès la première étape, il y a possibilité de porter ce beau maillot. Donc je me suis lancé dans l'échappée et bon j'ai fait deuxième de tous les cols, donc je devais être deuxième du classement par points. Et puis le lendemain, il faut savoir que sur ce grand tour-là, on a pris 17 jours de pluie sur 21.
Ouais.
Donc ça fait quand même beaucoup. Et donc le lendemain, c'était un déluge. Dès le départ fictif, on a pris des seaux d'eau sur la tête et pas très agréable. Toute la journée, c'était des routes sinueuses, étroites et glissantes. Et tout simplement pour pas prendre de risques et pas me casser la gueule, j'ai dit, vas-y, je retourne à l'avant pour passer une journée plus cool. Et effectivement, c'était une journée où c'est tombé 200 fois à la journée. C'était pas très agréable d'être dans le. Et en plus, il faisait froid parce que dans les roues, tu pédales moins, tu prends de l'eau dans la tête et c'est pas cool. Et donc, je me suis lancé là-dedans, puis je me suis retrouvé en tête d'un classement annexe, entre guillemets, du grand tour, où j'étais en tête des nombres de kilomètres d'échappée parcourus. Et donc voilà, ça a fait mon petit fil rouge pendant les 3 semaines du Giro. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai réussi à prendre des échappées pas que publicitaires. J'ai pris trois échappées non publicitaires où c'était vraiment sorti à la jambe et j'ai pu vraiment me faire plaisir, quoi, avec des mecs solides à l'avant. Voilà, on se faisait souvent rattraper par les leaders, mais je passais des vraies belles journées. J'ai fait plus de 900 km d'échappée sur
Un
le
tiers,
Giro.
quoi.
Un tiers, ouais, un tiers. C'est-à-dire qu'un tiers du temps, j'étais devant, donc c'était vraiment
C'est
sympa
solide.
pour moi.
Ouais.
J'ai kiffé. Et après, c'est vrai que j'ai fait un chrono final. C'était un chrono très particulier, hein. C'était une bosse, je sais pas si vous vous souvenez, c'était. Roglic qui a gagné le chrono et qui a renversé le
Ah, qui
Giro
était
d'ailleurs
très
ce
raide là.
jour-là. Ouais, c'était une bosse. Il y avait 7 km à plat et après il y avait ouais, c'était peut-être 8 km à 13 ou 14% de moyenne. C'était vraiment ignoble comme truc sur une rue bétonnée où même les voitures ne passaient pas. Et j'ai fait vraiment un bon chrono, donc c'est anecdotique, mais c'était une 20e ou 22e place, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'en World Tour, quand on connaît le niveau et qu'on est capable de faire ça
En
en
fin de
avant-dernier
Giro.
jour, du coup, 20e jour, C'est vrai que je me suis assez surpris et je me suis dit que finalement les grands tours m'allaient plutôt bien. Ouais. Donc, c'était un profil particulier qui m'allait bien et je me suis fait vraiment plaisir. Ouais.
Ouais, et puis j'imagine aussi pour toi, bah, c'est aussi, même si comme tu disais, des fois c'est classement annexe, mais c'est l'occasion de, bah, déjà pour l'équipe d'être, voilà, d'être plus souvent sollicité, je pense, pour les interviews, voilà, d'avoir une visibilité un petit peu plus importante, même pour toi.
Ouais, clairement, 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 ça a permis au grand public, entre guillemets, de connaître Thomas Champion, quoi. C'était une chance. J'avais les interviews tous les jours. C'était Eurosport, c'était l'équipe, c'était les médias italiens. Et c'est vrai que maintenant, quand je vais en Italie, les gens me reconnaissent. Les Italiens, il faut savoir que c'est des vrais passionnés de vélo. Ils connaissent réellement, ils s'intéressent à ce sport. Et dès que je mets un pied en Italie, les gens me reconnaissent, les gens savent, en fait, ils font un lien, ils disent bah Thomas Champion, ça fait tilt, Giro, échappé, voilà. Donc ça fait des petits liens et ça permet de se faire connaître. Ouais. Et après, au niveau de l'équipe, comme on n'avait pas spécialement de leader défini, c'est vrai que ça a fait la publicité. Et je sais que Eurosport en France s'amusait toujours de me voir devant parce que ça leur donnait de l'animation. Et côté français, ça leur plaisait bien, quoi, qu'un jeune français prenne des échappées, ça leur faisait de la pub et de quoi commenter les étapes.
Ouais. Et si on peut revenir sur le Giro et un peu les impacts que ça a, mais plus du côté toi physique, on entend souvent dire que ça permet vraiment les grands tours de passer un cap. Est-ce que c'était le cas chez toi? Est-ce que c'est à chaque fin, surtout vrai pour le premier grand tour que tu as fait? Est-ce que tu as vu une différence aussi dans tes capacités de récupération entre le premier et le deuxième? Bon, en sachant que entre une Vuelta et un Giro couru sous et 80% sous la pluie, j'imagine que ça fait pas les mêmes dégâts, mais est-ce que tu as quand même vu une différence entre ces deux grands tours?
Alors, la Vuelta, c'est vraiment en fin de saison. C'était ma deuxième année professionnelle, donc on finissait peut-être début septembre ou fin septembre, donc il reste pas grand-chose en course. Il reste pas grand-chose en course ensuite. J'avais quoi? Peut-être 6 ou 7 jours de course après le Giro, après la Vuelta. Et j'ai pas vu vraiment les bénéfices sur le moment. Après, c'est clairement l'année d'après que ça paye, je pense. Typiquement, le Giro, bon, certes, c'était un Giro l'un des plus exigeants, je pense, qui existait, dans le sens où la pluie rajoute énormément de fatigue, le froid également. Tu passes pas la même étape sous 20 degrés soleil que sous 2 degrés de la pluie. On finissait les étapes complètement mort. Et dans mon cas, j'avais énormément enchaîné les courses avant le Giro. J'avais fait vraiment un programme qui était pas du tout adapté pour faire le Giro à ce moment-là, parce qu'on avait quelques blessés, parce qu'il a fallu faire des remplacements, et parce que voilà, c'est aussi ça le rôle d'équipier. Et quand t'es pas leader, t'as pas toujours le choix de ton programme. Donc je crois que j'étais le deuxième coureur mondial avec le plus de jours de course à sortir du Giro. C'était vraiment aberrant. J'avais fait quelque chose comme Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, 3 courses en France, Jura-Besançon-Doubs. On avait pris 3 jours de flotte aussi, si tu
Ah
te
ouais, en
rappelles
plus,
d'eux.
ouais.
J'avais fait Tour de Romandie et Giro. Donc en fait, j'avais fait...
Ouais.
Ouais, J'étais parti 2 mois et demi déjà avant le Giro. En fait, ça avait un impact. Et je ne sais comment, franchement, j'en ai aucune idée de comment ça se fait que j'étais bien au Giro, parce que mon entraîneur m'avait prévenu. Il a dit, bah, si t'es complètement nul au Giro, c'est possible, quoi, vu ce que t'as
Ouais.
enchaîné. Et finalement, c'est passé. Le Giro est vraiment bien passé. Tu rentres dans une sorte de routine où, en fait, tu réfléchis même plus. Tu te robotises, t'es là, tu fais du vélo, t'appuies, c'est tout, tu finis ton étape et tu vois comment ça se passe. Donc là, j'ai vu en fait que j'avais quand même une capacité de récupération qui était assez impressionnante et que je pouvais encaisser les jours de course.
Ouais.
Par contre, quand j'ai fini le Giro et quand la pression est retombée de ces 3 mois de folie, on va dire, là, j'ai pas du tout écrasé, quoi. J'étais juste
Ouais.
mort, vraiment mort. J'avais 60 jours de course en juin. J'étais juste HS en fait. Donc je l'ai pas vraiment bien vécu l'après Giro. J'ai tapé la tête, j'ai dû abandonner. J'étais où autour de la route du Sud. Comment ça s'appelle? Ça a un nouveau nom maintenant. Enfin, c'est pas la route d'Occitanie, pardon. J'ai fait une première étape. C'était peut-être 2 semaines après le Giro. J'ai pris le départ et c'était un sprint le premier jour. J'ai pris 25 minutes
Ah ouais.
sans comprendre ce qui se passait. J'étais juste complètement mort. Donc l'équipe m'a fait rentrer à la maison. Et après, j'ai pris ouais, une bonne période de repos en juillet. Et au final, on s'aperçoit que des mecs qui ont marché après ce Giro, il y en a très très peu. Je pense qu'il y a juste Thibaut Pinot qui a enchaîné un top tour d'Italie et un très bon tour de France. Mais sinon, on n'a vu personne vraiment sortir la tête de l'eau, quoi.
Ouais, c'est tellement difficile.
C'est vrai que même un mec comme Aurélien Paré-Peintre, qui a pu gagner une étape vraiment dantesque, hein, ce qu'il a gagné, c'est vraiment une étape de folie. Et derrière, ça a été très compliqué, même pour des coureurs de cette classe-là, de sortir la tête de l'eau. Donc, j'ai revu le jour qu'en mi-septembre, donc c'est très long, hein, de mai à septembre, c'est très long. C'est trois mois assez difficiles à être en manque de sensations. Et après, ça allait très bien sur la fin de saison, ouais, sur octobre et tout. J'ai participé au tour de Guangxi en Chine et ça allait vraiment bien. Je sais pas, c'est anecdotique, mais peut-être une 20e place au général ou 25e place au général. Et là, ça allait bien. Et après, je me suis vraiment reposé cet hiver. J'ai fait 4 semaines sans vélo. Et quand je suis revenu, par contre, j'étais un autre homme. Là, j'ai fait un début de saison que j'avais encore jamais fait, et j'ai des sensations que vraiment j'avais jamais eues. Donc, je pense que le grand tour paye, mais des mois après, en fait. On se rend pas
Ouais,
compte.
tant que tu
C'est
récupères, tu
l'accumulation. C'est
l'assimiles. Ouais.
l'accumulation. C'est ça. Voilà.
Ok. Alors, on va passer à une partie très, très intéressante, en tout cas pour lesquelles aussi je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble. C'est l'aspect un petit peu découverte, nature, voyage. C'est vrai que dans les cyclistes, que ce soit professionnels ou amateurs, on va dire voilà, plus haut niveau, en élite, etc., il y a souvent deux catégories de cyclistes, on va dire les passionnés, donc ceux qui font vraiment du vélo, finalement, peu importe le résultat, peu importe la catégorie, qui font du vélo parce qu'ils aiment ça, ils ont envie de découvrir, de passer des bons moments sur le vélo, de faire des sorties plus ou moins longues, de voyager avec le vélo. Et puis ceux qui sont vraiment juste compétition, qui font du vélo, bah parce qu'ils sont pas mauvais là-dedans, ils veulent juste être à la course. L'entraînement, ça les intéresse pas. Faire des voyages ou découvrir des choses à vélo, ça les intéresse pas. Ils veulent juste avoir un dossard et essayer de gagner une course. Toi, il semblerait que tu sois bon, dans tous les cas, passionné, parce que je pense que pour faire le métier de cycliste professionnel et s'infliger toutes les contraintes qui peut y avoir et ces heures de sel dans des conditions qui sont celles qu'on connaît, il faut être passionné. Je sais que tu aimes bien découvrir, voyager, partir un peu sur des terres que tu ne connais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Comment tu arrives à le combiner ces envies avec ton métier et les contraintes d'un cycliste professionnel?
Alors ouais, c'est sûr, je pense que je suis ce qu'on peut appeler un réel passionné de vélo. J'aime ce que je fais et ce que j'aime, moi, c'est rouler à l'extérieur, c'est être à l'extérieur, c'est découvrir des nouvelles routes. Ouais, c'est explorer, en fait. Pour moi, le vélo, c'est le meilleur mode de déplacement possible. En cumulant entre guillemets rapidité, effort et paysage. Je me verrais pas sur de la course à pied parce que c'est trop lent entre guillemets et t'as pas accès à tout le paysage possible parce que t'es limité par la distance. La voiture, on regarde pas ce qu'il y a autour de nous parce que on va trop vite entre guillemets. Et le vélo, pour moi, c'est vraiment le meilleur mode de déplacement, de visite pour le paysage, pour la découverte, pour les vacances et tout. Donc j'aime ce que je fais. Je pense que ça vient un peu du côté vététiste, où dans le VTT, on va à des endroits que personne ne connaît. On va au sommet d'une montagne, on va au fin fond d'une forêt, on va, je sais pas. Et j'ai fait le choix de partir de Nantes, ma région natale, pour m'installer, dans les Alpes. Aussi pour ça, parce que j'aime la montagne, parce que j'aime les paysages, parce que j'aime changer de route à chaque fois que je prends mon vélo pour l'entraînement. Et donc oui, après il faut y mettre un cadre, parce qu'il faut savoir que le cyclisme professionnel c'est quand même très très carré, il y a plus de contraintes que ce qu'on pense, dans le sens où les entraînements sont planifiés, sont carrés, et on peut pas faire ce qu'on veut. J'aurais très très souvent tendance à en rajouter, à faire plus d'heures que prévu, à me dire bon bah c'est bon, on n'est pas à 1 heure ou 2 heures près, et aller monter un col de plus, mais ça marche pas tout le temps, parce qu'on a besoin de fraîcheur, on a besoin d'être carré, et on a besoin de faire des choses dans le sens de la performance. Si on veut rester cycliste professionnel, il n'y a pas le choix. Donc pour allier les deux, c'est vrai qu'il faut réussir à voyager, mais le moins fatigant possible. Il faut réussir à... Je sais pas, si jamais j'ai une semaine de libre, ça m'arrive souvent de partir de chez moi pour aller découvrir des nouvelles routes, des nouveaux endroits. Mais du coup, je vais me prendre un hôtel ou un endroit plus confortable pour avoir le côté récupération le plus optimal possible. Et en même temps, découvrir de nouvelles routes et pouvoir caler mon entraînement sur un circuit que je découvre sans dépasser non plus de 2 heures ma fourchette horaire, quoi.
Ouais, tu
On va
restes
dire.
dans des compromis, quoi.
Ouais, c'est vraiment des compromis. Pour moi, le voyage à vélo, j'aurais largement le temps de le faire après carrière. Mais c'est sûr que j'ai énormément d'endroits que je rêve de visiter et où j'irai à coup sûr après carrière. Là, pour l'instant, on a un métier qui nous propose des voyages tous les week-ends, toutes les semaines. Donc pour moi, ça me va bien, ça me satisfait comme ça. Et après, quand la carrière sera terminée, j'en profiterai pour assouvir tous mes désirs de voyage et de conquête à vélo.
Ouais. Pendant les courses, les différents déplacements que vous avez, quand même enfin, tu prends quand même le temps de profiter un peu, de découvrir justement, alors que ce soit dans les sorties. C'est vrai que le vélo, bah, j'imagine quand on entraînement, etc., mine de rien, bah, ça fait quand même voir du pays. Après, quand c'est en course, finalement, c'est un petit peu différent. Tu arrives quand même à profiter lors de ces courses où c'est vraiment focus course et perf.
Ouais. Alors oui, quand même, déjà, on a toujours cette veille de course, entre guillemets, où tu fais ta sortie des blocages, des crassages, ce que tu veux, d'une heure et demie, 2 heures, où tu explores quand même. Voilà, c'est des sorties plutôt tranquilles la veille de la course ou l'avant-veille. Donc tu vois le paysage, tu vois à quoi ça ressemble. On découvre quand même des villes. Que ce soit ville ou montagne, paysage, bord de mer, on voit tout type de profil. Et même en compétition, il y a toujours ce tempo d'après-échappée où on va avoir 1 heure, 1 heure et demie tranquille, où il y a moins de stress et où forcément tu vois où tu es quand même, tu regardes l'environnement dans lequel tu évolues. Et ouais, pour moi, le paysage, ça a une réelle importance sur la course, tu vois. J'ai aucun intérêt à faire une course où mon environnement c'est moche quoi. J'aime pas. Tout simplement j'aime pas. J'aime pas rouler où le paysage me plaît pas quoi. Quand je vois certains coureurs qui passent leur entière année à courir en Belgique, bon j'ai rien contre la Belgique hein, parce que mais juste le côté flamand de la Belgique, on peut pas dire que ce soit des paysages magnifiques quoi. Il n'y a pas trop d'attrait pour moi à aller sur ces courses-là. D'une, par le profil, mais en plus parce qu'il fait gris, parce qu'il pleut, parce qu'il n'y a que des champs. J'ai pas cet attrait-là. Après, j'ai de la chance que mon profil me permette d'aller plus
De
sur des
faire
courses
autre chose, ouais.
montagneuses. Ouais, c'est ça. Quand tu vas faire le tour du Pays Basque ou je sais pas, moi, les plus belles courses en Italie, là, tu te dis, ok, là, je suis bien, il y a des lacs, il y a des montagnes, il y a. Tu te régales en fait à faire du vélo dans ces endroits-là.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un ou plusieurs endroits que tu où tu as fait des courses et tu dis ok là j'ai vraiment envie de revenir pour rouler, explorer une zone et tu n'avais pas forcément pensé, tu vois, un pays, une ville
Où j'aurais pas pensé.
ouais,
Ouais.
où tu n'aurais pas forcément pensé, tu vois.
Alors,
Ou alors t'as pensé à trop de choses.
ouais, c'est ça, j'ai pensé à beaucoup de choses. Après, ouais, dans le début de ta question, je t'aurais dit direct les Dolomites, mais après,
Ouais.
où j'ai pas pensé, le Japon, typiquement, on a fait cet hiver les critériums d'après Tour de France, là, au Japon, et je sais qu'en fin d'année, l'équipe va très souvent à la Japan Cup. Et quand j'ai découvert ce pays, c'était juste incroyable. Et avant de me dire que j'allais y voyager, c'était pas spécialement un pays qui m'attirait. Je sais pas, pour moi, dans ma tête, c'était que de la ville. Mais en fait, pas du tout. Il y a énormément de montagnes. Il y a même des stations de ski. Il y a pas mal de choses. Et je pense que courir là-bas, parce que du coup, j'ai jamais fait la Japan Cup. Et j'aimerais y aller. Pour explorer ce côté montagne en fait que je n'ai pas pu faire en vacances cet hiver. Donc ça et après j'aimerais tester les courses comme Oman par exemple.
Ah ouais.
Oman je pense que c'est un entre-deux. Voilà, c'est pas UAE parce que UAE c'est tout plat, c'est vraiment du désert, des grands boulevards, mais Oman c'est un bon entre-deux, c'est des vallons avec le désert et quand je vois les images, c'est une course qui me donne réellement envie d'aller.
OK.
Et après, troisième, je pense que c'est une course que j'ai fait deux fois, c'est l'Arctic Race. Donc c'est en
Ouais.
Norvège et c'est le plus nord possible de l'Europe, on va dire. C'est vraiment la partie nord de la Norvège. Et là, réellement, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de paysage. C'est
Ouais.
juste incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on roule sur des îles, c'est plein de petites îles, des fjords qu'ils appellent ça. Là, en fait, on passe un coup sous un tunnel, dans un tunnel sous la mer, pour rejoindre l'autre. Un coup, c'est sur un pont, et en fait, tu joins d'île en île. Donc, tu vois la mer tout le temps. Il y a des grandes forêts, il y a des animaux qu'on n'a pas chez nous, je sais pas, comme des rennes ou des choses comme ça, il y en a partout. Et c'est assez exceptionnel, ouais. On a eu la chance l'année dernière d'aller. La dernière étape finissait à Nordscape. Donc et comme le nom l'indique, le point le plus haut possible de l'Europe. C'était vraiment incroyable. C'est vraiment le bout du monde. En fait, après, il n'y a plus rien, quoi. C'est l'Arctique. Et ouais, quand on va de l'autre côté, c'est le Japon, quoi. Ou c'est, je sais pas quoi, la Russie, ou j'en sais rien, mais. Ou le Canada, je sais pas trop ce que c'est l'autre côté, mais. Il y a vraiment plus rien quand on arrive au bout et c'est des paysages à couper le souffle.
Ah, c'est sûr que la Norvège, j'avais fait en 2018 ou 2019, il y avait une autre route qui était là-bas. Et
Ok.
comme tu dis, ça, et il y a aussi des jolis reliefs. Je me souviens, je crois d'ailleurs, vous avez dû le faire cette année, là, une bosse qui part au pied d'un port. Donc on arrive vraiment en bateau au pied sur la petite île. Et puis pour aller sur l'île et pour aller un peu plus loin, on est obligé de passer cette montée qui fait 10 km à presque 9% là. Et c'est vraiment assez magnifique. Je pense que vous l'avez peut-être pas cette année, mais l'année
Non.
dernière.
Ouais, je sais plus, mais je pense voir celle que tu parles, celle avec
Ouais, ben,
plein de lacets là, avec
ouais,
des lacets.
exactement. Cette montée,
Non.
on la voit souvent, notamment sur Instagram, etc.
Ouais.
Et ouais, c'est assez exceptionnel comme pays. Bon, il pleut souvent.
Non. Ouais.
Donc ça,
Clairement.
c'est ça, il faut pas oublier le Kauai, mais
C'est
c'est
ça.
toujours très très beau.
C'est vrai que cette
Super.
année, on est passé du. J'avais fait Saint-Sébastien, la classique à Saint-Sébastien,
Ouais.
la semaine d'avant, où il faisait 34 degrés en Espagne, et on est allé la semaine d'après à l'Arctic Race, il faisait 2 degrés de la pluie, c'était
Ah
pas trop marrant pour un mois
ouais.
d'août, ouais. Mais bon.
Top. Eh ben, écoute, on va juste terminer sur un petit peu les projections, les objectifs sur l'année 2024. Je crois que tu m'as dit avant que tu étais censé faire la Vuelta. Tu es encore sous contrat pendant combien de temps là avec Cofidis?
Alors là, j'arrive en fin de contrat là cette année.
Ok, d'accord.
J'arrive en fin de contrat, donc ouais, à partir de ce moment-là, je travaille avec un agent de cycliste tout simplement. Donc il va falloir re-signer un contrat si je veux rester dans le monde professionnel.
Ça met un petit peu de pression, ça, ou par rapport à ce que tu as fait sur les dernières années, tu es assez serein.
Alors non, je pense que ça met de la pression à tout le monde, hein, que ce soit même les leaders qui sont sûrs entre guillemets d'avoir un contrat. Alors pour eux, ça va être une pression de choisir la bonne équipe ou de signer, je sais pas, le bon contrat,
Ouais.
peut-être avec de la valorisation. Voilà. Après moi, à mon échelle, c'est sûr qu'il y a la pression de re-signer un contrat tout simplement, de rester professionnel. Mais écoute, mon travail, je le fais sans arrière-pensée et à 100%. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas tant de regrets. Pour moi, je fais mon travail bien et ça se voit. Donc j'espère que l'équipe saura me donner un contrat ou une autre équipe saura me donner un contrat, tout simplement.
Ouais.
Ça met de la pression, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les contrats font 1 ou 2 ans.
Dans tous les cas.
Ouais, dans tous les cas, donc en fait, si tu commences à te mettre la réelle pression, c'est-à-dire que tous les ans ou tous les 2 ans, t'as la surpression, à mon avis, ça marchera pas comme ça. Il faut se dire que ça fait partie du métier, d'être en fin de contrat, c'est-à-dire que tu es quand même très très régulièrement en fin de contrat.
Ouais.
Et donc voilà, il faut savoir passer outre. Et pour ma part, je fais le même travail si je suis en fin de contrat ou je suis pas en fin de contrat. Donc, j'ai pensé plutôt honnête de ce côté-là. Voilà, si ça doit marcher, ça marchera. Et tu me reverras dans un prochain podcast en tant que professionnel pour ma 5e ou 6e année.
Oui, ça j'en doute pas. C'est vrai qu'avec la progression que tu as, ce que tu as montré, etc., je pense pas que tu sois loin des pelotons, mais c'est vrai que c'est toujours
On ne sait pas.
bah,
C'est un risque.
c'est sûr, ouais. Et puis c'est aussi je veux dire, les gens se rendent pas forcément compte. Alors pour des sportifs professionnels en général, et notamment les cyclistes, mais aussi de tout cet aspect mental, pression que vous devez gérer tout au long de la carrière pour faire perdurer pour faire perdurer votre métier. Donc c'est vrai que ben toi, tu as l'air d'avoir les épaules assez solides, et surtout d'avoir voilà, ce côté où tu dis bon bah ben, moi de toute façon je fais mon métier au max, je peux pas faire plus, et puis bah ben, advienne que pourra,
Ouais, c'est
et
ça.
voilà. Mais c'est vrai que des coureurs qui sont un petit peu plus peut-être instables, ou qui sont un peu plus fragiles, peuvent vite être ben, voilà, mentalement un peu plus fragiles et déstabilisés, et sur des années de renouvellement, être peut-être un petit peu moins performant, ou faire des mauvais choix par rapport à ce stress-là.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr que la pression peut faire perdre un peu les pédales et la pression du résultat, se dire absolument, il faut que je performe, il faut que je performe, se tracasser la tête, faire comme, enfin, pas faire comme d'habitude, en pensant que on va s'améliorer en, je sais pas moi, en changeant sa nutrition du jour au lendemain, en courant différemment, parce qu'au final, un mec qui se met vraiment la pression, il va peut-être être contre, se mettre à dos un petit peu l'équipe, en ne respectant
Ouais.
pas forcément le briefing, en disant bon bah aujourd'hui je vais faire ma placette, plutôt qu'aider le collectif. Et au final, s'il n'y a ni la placette, ni le travail effectué pour le collectif, ça va pas passer.
Ouais.
Ouais, il peut. On peut. Moi, je reste sur ce que je sais faire le mieux. Voilà,
Ouais, suivre les consignes.
je prétends pas pour l'instant à des grandes victoires, même si voilà, ma progression va peut-être me permettre cette année ou dans les prochaines années à espérer quelques résultats. Mais pour l'instant, je fais ce qui a demandé au briefing, le briefing défini par les directeurs sportifs. Et le jour où ils me laisseront ma chance, voilà, il faudra pas que je me loupe, c'est sûr.
Est-ce que ces phases-là de négociation, de renouvellement, etc., est-ce que maintenant avec toutes les datas qui sont collectées, est-ce que ça rentre en compte aussi dans les négociations, d'un point de vue voilà, juste avec une nouvelle équipe ou même renouvellement d'une équipe, de dire bah voilà, moi mes puissances sur tant de temps elles évoluent, donc c'est où est-ce que finalement les agents ils sont sur d'autres métriques?
Alors, je vais te répondre que ça dépend peut-être de l'équipe. Ça dépend de l'équipe, dans le sens où de plus en plus on voit des Jumbo, des Ineos qui vont recruter des mecs pas inconnus, mais presque inconnus dans le monde, qui n'ont pas forcément de résultats purs, mais qui ont des données incroyables, où en fait ils arrivent à percevoir le potentiel du coureur. Chez Cofidis, je ne sais pas si ça va être réellement la priorité. Ça va être réellement la priorité. Je sais que moi, personnellement, j'ai des valeurs beaucoup plus impressionnantes que mes résultats purs. Ce qu'on
Ouais,
appelle.
parce que t'as pas ta place, enfin, parce que c'est pas ton
Ouais,
job qui
parce que
t'est demandé, quoi.
j'ai peut-être. J'ai peut-être pas su trouver ma place encore dans l'équipe et pas prouver par des résultats purs, mais je sais que j'ai des valeurs qui s'approchent quand même des meilleures de l'équipe. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un champion du monde de l'entraînement. Il faut savoir faire la part des choses, quoi. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, je vais te faire des super tests, machin, et en course, je vais peut-être pas savoir reproduire le même schéma. Mais le jour où j'aurai trouvé le déclic et le jour où j'aurai encaissé les kilomètres d'avant produire mon effort maximal, peut-être que ce jour-là, ça va payer, ouais, parce que les valeurs sont pas mauvaises. Donc, c'est à l'équipe de voir après s'ils y voient potentiel ou pas potentiel, en fait, simplement.
Ouais,
Mais.
oui, c'est sûr que c'est aussi la différence un peu dans les équipes, dans la vision, soit d'avoir déjà un coureur qui prouve qu'il performe sur différents points physiques, techniques et dans l'approche mentale, ou alors de voir un certain potentiel et un potentiel qui demande d'être amélioré. Je pense que c'est, comme tu dis, ce qui fait la différence aussi dans certaines équipes qui font de la détection, où finalement ils voient certains métriques importants comme les chiffres de les données physiologiques, puissance, etc. Et où ils se disent bah voilà, ce coureur-là, il faut qu'on le façonne de manière à ce qu'il performe, mais en tout cas il y a possibilité à performer, quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a potentiel ou pas. Moi, je connais beaucoup de coureurs qui ont des valeurs beaucoup moins impressionnantes que ce que je peux sortir, mais qui ont des résultats 10 fois plus probants, quoi. C'est des mecs qui ont ce sens de la course, qui ont ce flair, qui savent courir juste et qui arrivent en fait à optimiser le plus d'énergie possible. Que quand moi je vais mettre, je sais pas, 260 watts à la journée, eux ils vont réussir à en mettre 240, et c'est ces 20 watts là qu'ils vont avoir de plus dans le final et qui vont leur permettre de faire le résultat. Et ça s'apprend à courir juste, et ça s'apprend, mais c'est aussi un flair, on va dire, naturel. C'est des mecs qui savent faire, qui ont cette intelligence de course. que clairement, en venant du VTT, on n'a pas appris étant jeune, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est pas du tout une excuse, hein, parce qu'il y a des VTTistes qui courent aussi bien, mais la plupart des VTTistes, on part, on roule à fond et on voit ce qui se passe, quoi. Bon,
Ouais, et puis.
avec les années, ça se tasse, hein, ça se tasse forcément. On apprend nos
Ouais.
erreurs aussi, mais
Et puis.
ça n'a pas été instinctif chez moi dès tout jeune, quoi. Voilà.
Ouais, et puis je pense que c'est aussi. Enfin, tiens, tu vois, ça, je le voyais en élite. Si tu as un peu plus de watts, on va dire que la majorité, tu vas plus facilement les dissiper parce que ceux qui sont moins bien, ils sont obligés de ruser. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le
C'est
choix
ça.
s'ils veulent survivre. Toi, si tu as plus de watts, bah, tu les disperses un peu dans le vent, un peu machin, tu t'en fous du placement. Alors que celui qui est vraiment au millimètre, bah, il sait qu'il n'a pas le choix. Donc, il ruse, ça reste toujours propre, bien placé, toujours là quand il faut. Et puis, bah, quand ces coureurs-là, ils commencent à prendre un peu plus de watts, et ben forcément, ça en fait des très bons coursiers.
Un très
Mais
bon
bon,
coursier, c'est ça.
en tout cas, tu es encore jeune et avec l'évolution que tu as, je doute pas que tu trouveras le déclic et ta place dans ce milieu. En tout cas, c'est déjà remarquable ce que tu as fait et on te souhaite tout le meilleur pour cette année 2024.
Merci, merci beaucoup.
Voilà, on va clôturer ce podcast. Presque 1 heure d'échange avec toi. Merci beaucoup, Thomas. Donc j'invite tous les auditeurs à te suivre sur les réseaux. Tu partages toujours tes aventures et ton quotidien de cycliste avec passion. Donc voilà, je mettrai le lien de tes réseaux sur le lien du podcast. Et puis j'espère qu'on se reverra cette année pour discuter d'une de tes victoires peut-être.
Eh ben avec grand plaisir et merci pour l'invitation, Loïc.
Allez, et puis nous sur le
Ouais.
podcast, on se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous.
Bonne journée, ciao.